scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 148, pour le samedi 25 février 2012, Psychopium.
Aujourd'hui, je suis avec Jean-Baptiste Daillé, qui est un doctorant en psychologie, mais vous le connaissez probablement plus parce qu'il s'occupe du site web Psychopium. Bonjour.
Oui, bonjour Jean-Michel.
Alors, bah oui, si je t'ai invité, c'est pour que tu nous parles un peu de ce site Psychopium, avant tout, comme pour tous mes invités. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu ?
Oui, donc moi, comme tu l'as dit, je m'appelle Jean-Baptiste Daillé, j'ai 28 ans. J'ai fait tout simplement des études de psychologie ici à l'Université catholique de Louvain en Belgique pendant 5 ans. Et directement après, j'ai pas connu le chômage, j'ai été engagé comme assistant de recherche et d'enseignement. Donc ça consiste à donner des TP, donc des travaux pratiques, à faire de temps en temps de la suppléance de cours pour des enseignants. Et alors, parallèlement à ça, à réaliser une thèse de doctorat, le tout en 6 ans idéalement. Et donc, pour ma part, je travaille en psychologie de l'éducation et je travaille particulièrement sur la motivation scolaire et notamment particulièrement sur l'émotion d'intérêt qui est ressentie ou non par les élèves. Quels sont les déterminants de cette émotion, aussi bien au niveau de la personne que au niveau de la situation. Et donc, je travaille là-dessus au niveau de la recherche et je donne des enseignements qui sont liés à ces questions de motivation. Et donc c'est essentiellement ça qui m'a occupé pendant les dernières années. Et c'est vrai que j'aime bien avoir des activités connexes qui m'ouvrent un peu plus les horizons. Et c'est dans ce cadre-là que Psychopium est un peu né, puisque ça m'a permis de m'intéresser à des sujets qui étaient plus larges que le sujet de ma thèse, qui évidemment est comme toutes les thèses très focalisées. Et donc ça m'a ouvert donc des possibilités d'apprentissage dans différentes sphères de la psychologie. Mais donc ça, on va peut-être y revenir certainement.
Oui, mais raconte-nous un peu comment t'as été amené, vraiment d'où est venue l'idée de créer le site Psychopium, et puis il faut aussi un peu expliquer pour les gens qui ne le connaîtraient pas un peu en quoi ça consiste.
Oui, donc en fait, je suis personnellement un grand amateur du web, donc j'ai suivi assez bien ses débuts, j'étais encore adolescent. Et c'est vrai que j'ai toujours été forcément comme passionné de psychologie, intéressé de savoir qu'est-ce qui existait en termes de psychologie francophone sur Internet. Et ma constatation, c'est qu'il n'existait pas grand-chose ou des choses avec un sérieux qui était très variable d'une fois à l'autre. Et de mon côté, en tant que bon geek, je me suis abonné très tôt à des flux RSS, donc de la syndication de contenu donc en psychologie, des différents sites que j'agrégeais et que j'essayais de suivre vaille que vaille, parce qu'on est vite submergé d'informations. Mais j'essayais de suivre ça un petit peu de mon côté, et puis c'est vrai que je me suis dit, tout ce travail que je fais de mon côté, peut-être qu'il y a moyen d'en faire quelque chose pour les autres, et que ça me donnerait aussi la motivation suffisante pour vraiment le faire moi-même aussi bien. Donc il y avait une optique d'un peu de valorisation d'un travail personnel à un niveau plus public, si je puis dire. Et donc c'est de là qu'est née l'idée de Psychopium. Alors j'avais déjà fait des sites web avant qui n'étaient pas forcément liés à un contenu. J'avais notamment créé un gros forum pour les étudiants de ma faculté qui avait eu un certain succès, mais qui était, en termes de gestion, un simple travail de gestion de forum, donc le contenu, disons, était peu présent dans mon travail, et j'avais envie de créer un site qui puisse m'apporter vraiment un apport de contenu réel, et donc des apprentissages réels aussi. Et je savais en même temps que j'avais très peu de temps pour faire ça, finalement, parce que le blogging et tout ça, c'est quelque chose qui est très très chronophage, et ça me tentait peu, sachant le succès que j'avais eu avec le premier site, de faire quelque chose de très bien, mais de très peu lu, parce que je trouvais que l'effort en valait quelque part pas la chandelle. Et donc j'ai essayé d'imaginer un dispositif qui permette de produire un site avec un effort quelque part minimal pour un rendu au niveau de la mission qu'on se fixait maximale. Et la mission était ici d'essayer de donner une image de la psychologie qui soit différente de l'image classique que les gens en ont, à savoir justement le bête magazine féminin qui part sur des allégations un peu fausses sur comment gérer son couple ou quoi, et avec les conseils d'un soi-disant expert. J'étais avec l'idée qu'il y a des choses dans la recherche scientifique qui peuvent répondre à ces questions, que tout le monde se pose, mais pourtant qui ont quand même un statut de sérieux qui est plus important parce que c'est validé par des recherches scientifiques qui, bien sûr, sont toujours critiquables, mais disons qu'il y a en tout cas un niveau de sérieux plus important. Et donc, je suis parti comme ça tout seul avec cette idée en octobre 2009, avec donc l'idée d'essayer de diffuser ce qui existait par des moyens qui soient, entre guillemets, rentables en termes d'audience. Et donc, j'ai fait le choix immédiatement de me focaliser exclusivement sur les réseaux sociaux. Et donc, à l'époque, et encore aujourd'hui, c'était Facebook et Twitter qui surnageaient. Et donc, j'ai décidé d'implanter Psychopium exclusivement là-dessus, et d'avoir un site qui était plus une sorte de vitrine par ailleurs. Et donc ça consistait essentiellement à lire un grand nombre d'actualités via différents flux RSS et de sélectionner là-dedans ce qui avait l'air un minimum sérieux et ce qui ne l'était pas. Et puis progressivement, vu la quantité, à sélectionner aussi ce qui était susceptible dans ce qui était sérieux d'intéresser les gens et ce qui n'était pas, et de laisser tomber ce qui n'était pas susceptible de les intéresser. Parce qu'il y a des choses très sérieuses et que personne n'a envie de lire. Et d'une certaine façon, ça contribuait ça à plutôt générer des désabonnements de notre service. Et dans l'optique de diffuser de l'information, c'était un peu contraire à nos objectifs. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on sélectionne essentiellement des actualités qui sont à la fois sérieuse, donc normalement validée par au moins un article publié dans une revue à comité de lecture, et en même temps des actualités qui peuvent parler à monsieur tout le monde d'une certaine façon, qui touchent plutôt de la psychologie générale ou plutôt de la psychopathologie de troubles quand même importants avec une certaine prévalence dans la société, qui sont dès lors des troubles un minimum connus et qui touchent un minimum les gens. Donc c'est assez évident que la dépression, Alzheimer, ces choses dont on traite, mais on va aussi donc traiter de beaucoup de sujets de psychologie plus générale. Et donc, ça a commencé tout seul, avec quelques petits statuts de temps en temps, enfin quelques petites actualités postées de temps en temps. Progressivement, les choses se sont de plus en plus organisées. Je me suis abonné à plus de flux RSS, j'ai constaté qu'il y avait plus. J'ai voulu couvrir tout ce qui existait, rendant compte que dès lors, je saoulais mes lecteurs avec trop, et que finalement, je créais l'effet inverse. Donc j'ai dû progressivement élaborer un rythme de publication qui soit gérable. Donc ça veut dire aussi une sélection qui est différente, parce que si on doit sélectionner 12 actus par jour, ce qui est actuellement notre quota, bien évidemment, on est plus ou moins sélectif par rapport à peut-être 50 actus à une certaine époque, ou 2 actus. Et donc là, je me suis accordé sur une sorte de rythme. Mais ce rythme, et toujours avec la recherche d'une qualité croissante, ça devenait un travail important. Et donc je me suis mis en quête d'une équipe pour soutenir ce projet. Équipe purement bénévole, parce qu'on ne génère absolument aucun revenu, vu qu'il n'y a pas de publicité forcément, puisqu'on est sur des réseaux sociaux, et que les réseaux sociaux, ça s'approprie toute la publicité de toute façon qui est dessus. Et puis aussi, sur notre site, on n'avait pas le souhait de mettre de la publicité. Ce qui a fait donc qu'il a fallu recruter des psychologues, parce qu'on voulait quand même des gens un minimum qualifiés pour ce qu'il fallait faire, des psychologues bénévoles pour ce projet. Donc évidemment, le recrutement s'est produit d'abord parmi les personnes qui connaissaient forcément ce projet. Et donc de là sont émergées une série de personnes qu'il a fallu un petit peu recruter. Donc j'ai reçu des CV, etc. C'était assez extraordinaire de recevoir des CV, de sélectionner des bénévoles, mais ça a permis vraiment de sélectionner des personnes qui en voulaient et qui ont embrayé dans ce projet en donnant immédiatement de leur temps. On avait prévu environ 2 heures semaine par personne, et bon, aujourd'hui on est une quinzaine de personnes, donc ça bosse quand même pas mal si on additionne les heures de tout le monde. Mais donc c'était une équipe qui a un certain... qui évolue, il y a un turnover, les gens peuvent se lasser ou peuvent aller vers d'autres activités professionnelles plus prenantes, etc. Mais disons que je veille à la continuité du service aujourd'hui, donc j'essaye que... Là ça fait 2 ans et demi environ qu'il existe et j'essaye que ça continue. On a déjà abattu un gros travail, on a déjà recensé, je crois, plus de 12 000 actualités différentes qui normalement sont basées sur des recherches différentes, donc ça commence à chiffrer beaucoup, et on a un travail important qui consiste aujourd'hui à ne essayer de ne pas diffuser deux fois la même chose, ce qui repose essentiellement sur, de la mémoire à court terme ou à plus ou moins long terme, de se souvenir, ça, on l'a déjà relayé. On essaye de relayer un maximum de choses qui peuvent toucher les gens et en même temps qui soient pertinentes au niveau scientifique.
Oui, juste, toi, ça te prend à peu près combien de temps par semaine? J'ai aussi que 2 heures par semaine. J'ai un peu du mal à le croire.
Non.
En voyant la liste.
Non, ça, c'est sûr. Donc, les 2 heures, c'est ce que je demande aux collaborateurs bénévoles. Pour ma part, je crois que j'ose même plus calculer, mais c'est important dans la mesure où il y a vraiment un vrai travail de gestion d'équipe qui s'est installé déjà, puisque on travaille à distance, donc on s'est pour la plupart jamais rencontrés. Il y a des Français, des Luxembourgeois et des Belges. C'est des gens de différentes sphères. Ils sont psychologues, mais ils travaillent dans différentes sphères. Ils ont différents backgrounds technologiques. Et avec tout ça, on doit travailler à distance avec des outils collaboratifs. Et on doit être tous très, très cohérents entre nous. Bon, on est aussi par exemple, on a des règles de cohérence de syntaxe de titre, par exemple. Avant un double point, on met un espace. Et donc, tout le monde doit apprendre ce genre de choses pour que progressivement, on ne s'adonne pas à un agglomérat d'actu qui ne ressemble à rien. Par exemple, on traduit tous les titres des actualités en anglais pour donner un petit peu plus envie de les lire, quand même, que même si ça reste ardu pour la majorité des francophones. Traduire correctement un titre, rechercher correctement un article original, parce que chaque fois qu'on recense une actu, on fait l'effort de rechercher l'article scientifique dont provient cette actu vulgarisée. Et parfois, c'est un article pas très très bien vulgarisé d'un site un peu qui veut faire juste de l'audience, par exemple, et ils disent une recherche avec 120 étudiants a montré que, et on ne sait pas de quel univers ça vient, etc. Et à force de recherches croisées dans Google, on est tous devenus très très bons pour ça, on finit par retrouver la source exacte du truc. Et donc ça a demandé que chacun développe des compétences de recherche. Et donc c'est vrai qu'en fait aujourd'hui, je passe beaucoup de temps déjà à veiller à recruter sans cesse, parce que l'air de rien, il faut tout le temps recruter de nouvelles personnes et à former ces personnes. Et donc j'ai élaboré vraiment tout un wiki privé d'aide à comment travailler dans Psicopieu. Ça devient d'une importante complexité. Par exemple, il y a des sites dont on sait que l'URL va être fermée après un certain temps au grand public, parce que c'est une sorte de stratégie du site de laisser l'article libre pendant 5 jours et puis de le fermer. Et nous, comme on n'est pas sûr de le relayer exactement au moment où on le trouve, parce qu'il y a peut-être une sorte de fil d'attente d'actualité qui vont paraître avant, on doit absolument faire en sorte qu'au moment où les gens cliquent, ils ne nous disent pas tous que le lien est mort. Donc on doit utiliser un service qu'il fallait trouver, évidemment, qui sauvegarde le lien en état, qui fait une sorte d'archive cache du lien. Enfin, et donc, toutes sortes de petits détails comme ça qui font que ça a une certaine complexité, quoi. C'est un travail je me plais aussi bien, je dirais, au début j'avais vraiment la main sur les toutes premières tâches de sélection. Aujourd'hui c'est vrai que j'ai dû prendre un peu de recul et à travailler sur d'autres aspects plus humains ou aussi de promotion du service. C'est vrai qu'on a lancé par exemple des partenariats avec des maisons d'édition pour pouvoir organiser des concours et donc de ce fait-là rendre un peu plus dynamique et visible le site. C'est vrai que chaque partenariat, chaque envoi de livres aux gagnants, etc., c'est un certain travail de gestion aussi. Mais heureusement, j'ai encore l'occasion, ça m'arrive encore vraiment fréquemment de repartir dans le flux RSS, c'est-à-dire refaire de la sélection de première ligne, parce que finalement, c'est ça qui m'amusait le plus au départ, et ça m'amuse toujours. Donc je préfère pas compter, mais ça doit certainement être au-dessus de 6 heures semaine, à mon avis. Dans les meilleurs des cas, ça doit rester 6 heures semaine. Mais c'est un travail qui m'amène moi personnellement à être en contact avec un nombre incalculable de découvertes scientifiques, dont certaines sont vraiment très 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 amusantes et intéressantes, et ça me donne énormément de choses à raconter quand je suis allé souper, quand je suis à court d'idées. J'ai toujours qu'une étude a démontré ceci, et ça, c'est en général ça donne toujours à discuter, donc ça c'est chouette, quoi.
Psychopium a trouvé son public, non ? Comment, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui vous suivent, du profil un peu de la personne qui serait intéressée par votre service ?
C'est difficile, parce que, notamment parce qu'on a, comme on travaille sur les réseaux sociaux, on a certaines informations sur les gens, mais parfois pas autant que quand on a un outil d'analytics pour son propre site. Mais disons que on est clairement beaucoup plus présent, évidemment, en Belgique et en France, notamment parce que tous les réseaux sociaux fonctionnent un peu avec un système de viralité où progressivement les amis voient qu'on est devenu fan d'eux, etc. Et donc c'est sûr que, puisque les personnes qui étaient les plus impliquées, c'est-à-dire les collaborateurs, étaient belges ou français la plupart du temps, c'est surtout à partir d'eux que quelque part ça a pris progressivement. Maintenant, on a quand même aussi une série de lecteurs québécois, et puis alors la quatrième nationalité, c'est la Tunisie. On a aujourd'hui à peu près 7000 personnes qui nous suivent. Il y en a environ 2700 sur Twitter et 4003 sur Facebook. Bon, c'est difficile d'évaluer à quel point ces gens suivent, donc c'est-à-dire ces gens sont abonnés, mais à quel point ils ont, par exemple, enfin, c'est possible que certains aient finalement masqué nos actualités alors qu'ils sont restés, par exemple, fans sur Facebook. Et de ce fait, peut-être parce que justement il y avait peut-être trop pour eux, c'est-à-dire que c'était la difficulté de trouver le bon rythme, parce que chacun a un souhait d'être informé qui est différent, et donc il y en a qui en veulent toujours plus, et il y en a qui sont vite satisfaits, donc ça c'est difficile à évaluer, mais disons que ça a quand même pas mal pris pour quelque chose qui par exemple est très mal recensé dans Google, puisqu'on n'a pas de site à contenu, on n'est pas du tout, si on tape actualité psycho, je crois qu'il faut vraiment aller loin pour retrouver notre site, donc ça fonctionne uniquement par le bouche à oreille, si je veux dire, ou le clic à clic, qui progressivement se diffuse, et donc par une stratégie de diffusion comme celle-là, le résultat n'est pas mauvais, et c'est vrai que les gens ont l'air d'apprécier ce genre d'actualité qui finalement est très très peu présente dans les médias traditionnels, qui sont quand même essentiellement pris par l'actualité internationale, l'actualité politique, et déjà les sciences sont vraiment reléguées vraiment souvent à la petite page dans le supplément, et encore dans le meilleur des cas, et puis bon, les sciences, c'est vrai que c'est encore très très large, et c'est vrai qu'ici c'est uniquement la psychologie, donc c'est donner une place à ces actualités, une place qu'elles n'ont jamais eue, et donc de ce fait là c'est vrai que ça a suscité chez certains une vraie fanatitude, si je puis dire, donc des gens vraiment qui sont passionnés par ça parce qu'ils retrouvent exactement ce qu'ils recherchent depuis longtemps, et donc ça c'est chouette. Et là on a lancé il y a déjà une bonne année une newsletter pour essayer de toucher aussi des gens qui n'aiment pas spécialement les réseaux sociaux, qui n'y vont pas souvent, et donc là ça touche un public légèrement différent d'environ 1000 personnes, mais qui là, l'avantage de la newsletter, c'est qu'on a une possibilité de mise en page du contenu qui est bien plus élaboré, donc on peut vraiment rendre notre contenu plus attractif et plus complet, on peut remettre les sources, les articles originaux, parce qu'évidemment le réseau social comme Twitter, qui restreint à 140 caractères tout ce qu'on dit, c'est réduire une actu en 140 caractères, en pouvant mettre les liens complémentaires, tout ça, c'est extrêmement, extrêmement réduit, quoi.
Je voulais juste revenir sur ce que tu disais au tout début pour parce que ça pourrait intéresser mes auditeurs. Mais donc avant, tu avais l'impression que la vulgarisation psychologique en français, enfin je ne sais plus comment tu l'avais formulé, mais enfin c'était un peu décevant pour toi. Ou bon, il y avait toujours les magazines féminins qui présentent des choses, mais tu avais l'impression qu'il y avait un besoin de la formation plus sérieuse. Est-ce que tu penses que ça a changé maintenant avec Internet, ou est-ce que comment tu vois un peu le domaine de la vulgarisation psychologique ou de l'information psychologique en dehors de Psychopium?
Donc il existe quelques bonnes sources, c'est essentiellement des magazines papier la plupart du temps, mais donc il y a notamment Cerveau et Psycho, qui est vraiment de bonne facture. Il y a le tout récent Le Cercle Psy, qui est une sous-section de Sciences Humaines, qui est vraiment bien fait aussi, qui est un petit peu moins, qui est plus ouvert que Cerveau et Psycho, dans lequel on va vraiment voir enfin, très très peu probablement vers quelque chose de l'ordre de la psychanalyse, alors que le cercle psy étant français, enfin le cerveau psycho aussi, mais j'ai un temps vraiment français de souche, je veux dire, à garder quand même plus une ouverture très large sur tous les domaines de la psycho, avec un accent plus sur les praticiens que cerveau psycho n'a pas. Cerveau psycho, j'ai vraiment envie de dire, ça ressemble, c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'on fait, sans doute. C'est-à-dire que quasiment tout ce qui est relayé doit être basé sur des recherches identifiables. Mais c'est un magazine qui fonctionne, je crois, exclusivement avec une personne, qui est Sébastien Boller, et qui, en fait, engage des chercheurs pour écrire une série d'articles. Mais c'est un magazine qui fonctionne à très petit effectif, et qui fournit un beau travail, mais qui est malheureusement cher, puisque forcément, ça n'intéresse qu'une audience réduite, et donc, je crois que c'est environ 8 euros le numéro, et donc, avec un tarif comme ça, on n'arrive pas à toucher des gens qui ne sont pas déjà, quelque part, des passionnés, des convaincus, par le fait que c'est important d'être basé scientifiquement, etc. Et donc ici, l'idée de travailler sur du gratuit, c'était de donner un accès à des choses qui sont de l'ordre de cerveau psycho, mais souvent, malheureusement, moins bien rédigées, il faut bien le reconnaître, à vraiment une population plus large, et qui compte à peu près toutes sortes de profils, parce qu'on a parlé un petit peu des profils, mais c'est vrai qu'on va parfois toucher des chercheurs qui sont bien conscients que c'est parfois de la mauvaise vulgarisation, mais qui peuvent être très contents d'avoir l'article original qui est lié, et ça leur permet de se maintenir au courant. Et eux-mêmes, s'ils veulent se faire leur propre idée, ben, ils retournent à la source et ils sont très contents comme ça. Et à l'inverse, on a des gens, je pense, qui sont vraiment peu qualifiés, qui sont uniquement intéressés par les titres, mais au moins, quelque part, qui auraient peut-être lu avec autant de plaisir la même réponse qui n'aurait pas été basée sur la science dans un magazine féminin. Ils auraient eu autant de plaisir à lire ça. Mais disons que forcément, nous, puisqu'on sélectionne pour eux quelque chose, au final, ce qu'ils lisent est a priori plus sérieux que ce qu'ils auraient peut-être lu. Et donc, de ce fait-là, on fait un peu leur bien malgré eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien demandé, à la limite, mais finalement, on leur donne une information qui correspond un peu plus à ce qu'on aimerait diffuser largement. Donc, il y a quand même une philosophie qu'on a qui est quand même d'essayer d'améliorer l'information. Et donc, on est toujours un petit peu mal pris entre les impératifs, si on veut, d'audience. On n'a pas des impératifs, mais on a quand même envie d'être lu, sinon ça sert à rien. Mais on ne veut pas non plus que pour être lu, on fasse n'importe quoi. Donc, il y a quand même une question d'audience dont on choisit les sujets. On essaie de ne pas choisir des trucs sur le neurone, machin, brôle, qui est lié à telle substance, etc., dans le cerveau, et on ne voit pas du tout ce que ça peut avoir comme incidence dans la vie réelle. Mais sinon, au niveau du sérieux de la source, là, on essaie de vraiment rester fidèle à nos objectifs.
Oui, donc tu as lu des tonnes de vulgarisations psychologiques. Est-ce que tu as des tendances, des anecdotes de problèmes qu'il y a dans la vulgarisation? Parce que c'est des choses auxquelles les sceptiques sont toujours... La manière dont les journalistes, bon, évidemment là ça peut être des blogueurs, mais transforment ou maltraitent ou déforment le contenu d'une recherche.
Ah oui, ça malheureusement, mais je dirais que si nous on est un peu mal pris par rapport à ces questions, dans le sens où donc, on a eu comme objectif donc, de ne faire que relayer. Mais c'est vrai qu'en fait, beaucoup de choses qu'on relaye mériteraient une sorte de commentaire méta qui dit bah, « faites attention à ceci ou à ça » ou « regardez le titre qui a scandaleusement déformé le réel ». Et ça, on ne le fait pas. Parce qu'on n'a pas en fait, le temps de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a des titres qui sont... c'est sûr que un des grands problèmes c'est les corrélations évidemment qui sont interprétées comme des effets causaux et donc c'est vrai qu'on compte plus les titres du genre je sais pas moi l'infidélité cause la dépression ou des choses comme ça alors qu'on sait pas très bien si c'est pas l'inverse ou si c'est pas encore une troisième variable et donc c'est des titres qui vont enfin malheureusement les médias en ligne sont très souvent tributaires du nombre de clics qui vont générer puisqu'il y a de la pub à côté etc et donc je veux dire on sent et c'est intéressant d'ailleurs quand on observe les flux RSS on voit vite les sites qui sont issus d'un chercheur CNRS qui veut juste faire du bon travail ou le site qui veut vraiment faire de l'audience et la même actualité va évidemment être traitée surtout au niveau du titre, j'ai envie de dire d'une façon vraiment diamétralement différente, puisqu'on va avoir des titres sensationnalistes qui vont être utilisés par ces sites qui veulent faire de l'audience. Et nous, on a aussi un outil qui est particulier, qui est le fait qu'on raccourcit nos liens pour qu'ils passent dans les statuts très courts. Et en les raccourcissant, on utilise un service qui nous permet en même temps d'avoir les statistiques de clics sur chaque actualité qu'on recense. Et c'est ces statistiques de clics qui génèrent le digest qu'on fait pour la newsletter bimensuelle. Et donc, ces statistiques, elles indiquent... Enfin, je veux dire, c'est malheureux, mais elles indiquent aussi ce qui amuse les gens. Et ce qui amuse les gens, c'est pas toujours très glorieux, de toute façon. Et c'est souvent les titres sensationnels. Donc, c'est vrai que quand on regarde notre newsletter, on va avoir plein de titres un peu oulala, etc. Et heureusement, on rajoute toujours l'article scientifique en dessous. Et donc, ça permet d'un petit peu se sentir un peu mieux en disant, c'est quand même, ça vient quand même de quelque part et on peut retrouver ce qu'il en est vraiment. Mais c'est vrai que le titre, si on lit que le titre, on peut vraiment être induit en erreur. Et c'est une difficulté qu'on a, c'est qu'on soupçonne quand même une série de personnes, notamment sur Facebook, où on peut vraiment commenter, parce qu'il y a de la place pour commenter en dessous. On soupçonne qu'une série de personnes commandent nos actualités sans avoir vraiment lu l'actualité. Donc ils ont lu le titre et puis ils disent, mais pas du tout, moi c'est pas comme ça. Ou, mais c'est quoi ce délire? Ou des choses, parfois pas toujours au niveau de ce qu'on voudrait. Donc on a une très grande foire aux questions où on explique ce qu'on attendrait d'un lecteur consciencieux, etc. Mais bon, voilà, donc on ne contrôle pas nos lecteurs. C'est vraiment une particularité. Tout le monde est le bienvenu pour nous lire. Parfois tout le monde n'est pas le bienvenu pour réagir. Donc c'est vrai que. On a parfois mis le holà sur certains commentaires. On a eu un épisode très difficile sur la question du lien entre QI et origine ethnique. Quelqu'un qui voulait absolument parler de ça, et parler du livre de Bell Curve, et ne parler que de ça, et avec évidemment en tirant des conséquences sur l'organisation que doit prendre la société, etc. Ça a vraiment mal tourné cette fois-là. Donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on touchait quand même à des sujets, c'est des sujets qui touchent fort les gens. Et donc c'est vrai que quand on évoque quelque chose qui est contraire à ce qu'on pensait, etc., c'est des choses qui sont choquantes potentiellement pour les gens, qui sont difficiles à accepter. Et je pense aussi qu'un des atouts justement qu'on a par rapport à ça, c'est que les choses difficiles à accepter passent mieux du fait qu'elles sont quand même validées par une recherche. Et donc on peut se permettre dans une newsletter de mettre un premier titre d'actu, un truc sur la masturbation féminine, parce que quand même ça vient d'une recherche sérieuse, validée, alors que si ça venait de nulle part, on n'aurait pas osé, parce qu'on se serait dit vraiment, mais d'où ça sort, c'est un tel ou un tel qui nous a raconté ses expériences, donc plutôt une telle ou une telle, donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous protège un peu, mais avec cette histoire de QI, on s'est rendu compte qu'évidemment, on s'est rendu compte, on le sait, mais on a vraiment bien pris conscience que même évidemment dans le milieu de la recherche, il y a des controverses et que donc ces recherches étaient quand même publiées. Hein, donc il faut encore après, comment dire, on essaye nous de ne pas se positionner au-delà du fait que la recherche a été publiée dans une revue sérieuse. Et donc parce que si on doit aller au-delà et prendre parti et devenir vraiment très très définissable en termes de qu'est-ce qu'on croit vrai, qu'est-ce qu'on croit faux, etc., à ce moment-là on va avoir avec nous que les gens qui sont comme nous, quoi. Et donc on va quand même réduire terriblement l'audience. Et donc par exemple, tout ce qui s'est passé par rapport à la psychanalyse, on a relayé la question sur le mur, etc., mais pas énormément, parce que c'est pas des recherches, si on veut, c'est plus de l'actualité de ce qui se passe dans le monde de la psychologie, mais on en a quand même un petit peu parlé, mais on n'a pas non plus pris parti. Il y a des personnes dans notre équipe qui sont extrêmement convaincues d'un point de vue ou d'un autre, mais on n'a pas fait état de ça dans notre service pour pouvoir garder, parce qu'on pense que si tout à coup on commence à se positionner d'un côté ou de l'autre, on va de facto couper tous les ponts avec une série de personnes qui pourraient quand même être intéressées par plein d'autres actus qu'on poste. Donc ça, c'est un choix qu'on fait qui nous protège aussi. Et c'est vrai que globalement, comme on touche peu aux actus qu'on relaye, puisque finalement on fait essentiellement que les relayer, on peut pas chaque fois prendre la responsabilité de tout ça. Donc on relaye parce que ça nous semble sérieux, parce que ça vient d'un article. Après, les gens se font leur idée. C'est partiellement dangereux, hein, j'en conviens, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'iront pas se faire leur idée, qui vont tomber dans certains raccourcis, etc. Mais disons que c'est voilà, il fallait prendre une option et qu'on a choisi cette option-là. Tu
as donné quelques exemples, mais est-ce que tu en aurais d'autres de choses qui te semblent des sujets particulièrement maltraités par la vulgarisation ou qui reviennent régulièrement ou qui t'ont particulièrement frappé?
Disons qu'il y a quand même un biais dans ce qui finit par être vulgarisé. Déjà, le premier biais, ça me semblait quand même de savoir quelle revue fait un effort pour être vulgarisée. Donc c'est clair que des revues comme Psychological Science, il y a un communiqué de presse par article ou à peu près, et ce communiqué de presse va être copié et collé des vingtaines de fois ou des centaines de fois parfois, et donc va faire le tour de la toile. C'est des revues aussi qui vont faire un effort pour rendre leur titre sexy, etc. Et donc elles vont un peu prendre le devant de la scène, malgré le fait que leurs recherches ne sont pas forcément meilleures qu'ailleurs. Et donc ça, c'est déjà une difficulté, évidemment, qu'on a. C'est que nous, comme on ne travaille qu'avec les articles qui ont été vulgarisés, il y a plein de choses qui n'ont jamais été vulgarisées, qui sont très bien, et dont on ne parle pas du tout. Donc on parle de... En fait, Psychopium parle de ce dont on parle, j'ai envie de dire, mais malheureusement, on ne décide pas exactement ce qui est traité. Et donc c'est vrai que... moi, en tant que je veux dire, gestionnaire du projet, je suis quand même confronté à certains moments avec un nombre trop important d'actus sur certains sujets, et qui, c'est vraiment, c'est plus possible, quoi. Donc, par exemple, je pense que Alzheimer, c'est un sujet complètement surtraité, que plus ou moins une semaine sur deux, on dit qu'on a trouvé le traitement miracle, que maintenant la molécule ceci, etc., bouge de telle synapse, etc. Bon, et hop, à ce moment-là, c'est gagné, on est tout à fait. Donc, c'est, franchement, si on a un moteur de recherche de nos actus antérieures, si on tape Alzheimer et qu'on regarde, je pense vraiment pas exagérer en disant presque, en tout cas qu'une fois par mois, il y a quelque chose qui soi-disant bouleverse complètement la compréhension. C'est souvent des choses qui sont souvent évidemment des ébauches de solutions et qui sont encore très très loin de pouvoir aboutir, mais qui peuvent potentiellement, je trouve, donner de faux espoirs, etc., aux gens. Surtout avec des titres justement un peu racoleurs qui sont utilisés. Et donc là, on essaie de faire un effort, par exemple, pour pas tout le temps parler d'Alzheimer. globalement, tout ce qui est de l'ordre du biologique et des neurosciences, c'est clair que c'est quelque chose qui monte fort et qu'il y a quand même une forme... il y a un risque de réductionnisme progressif du fait que finalement, on n'ose plus... Que ce qui se publie le mieux et ce qui donc va arriver dans Nature, etc., ou dans Science, et dont on va donc abondamment parler, ça va être des choses qui forcément font appel énormément aux neurosciences ou aux biologiques. Et c'est pas un problème, mais disons que parfois ça génère dans nos actus une proportion qui est finalement plus si énorme d'actualité proprement psychologique. Au sens premier du terme, où on s'intéresse vraiment aux perceptions des gens, ou ce genre de choses, ça va disparaître au profit d'actualité sur des processus neuronaux, ce genre de choses. Mais c'est pas un problème, mais c'est juste que progressivement, on va vraiment vers une compréhension de ce type-là de l'être humain, ou en tout cas que c'est cette compréhension-là qui est favorisée par les éditeurs scientifiques, et donc qui fait l'objet de vulgarisation. Donc, mais ça, c'est pas nouveau. Enfin, d'ici en interne dans la faculté, on sait bien que selon les unités de recherche dans lesquelles on se trouve et donc les domaines qu'on aborde, la publication va pas être aussi facile. Et les impact factors des revues, etc., sont pas les mêmes selon les domaines non plus. Donc, voilà, mais il y a clairement donc il y a un aspect sensationnaliste pour toutes les actus globalement. Chaque fois, il y a toujours des médias qui vont essayer de les rendre plus sensationnels qu'elles ne sont. Bon, le sexe, ça c'est pas nouveau, mais le sexe ça fait vendre, donc voilà, on peut parler à peu près de n'importe quoi, mais dès que ça touche au sexe, même chez nous, hein, donc nos stades de lecture bondissent complètement, donc ça c'est C'est pas, moi je travaille sur l'intérêt, donc il y a certains articles que j'ai lus en tant que chercheur sur, sur finalement s'il y a des choses qui sont intrinsèquement intéressantes, si on veut. C'est une vaste question, mais c'est vrai qu'on constate au niveau des statistiques qu'effectivement la violence et le sexe, c'est quand même encore des choses qui, voilà, qui emportent le morceau. Et donc c'est clair que les médias qui veulent faire du clic savent bien qu'en faisant ça, bah, c'est gagné, quoi, si on veut. Ça ne veut pas dire que c'est inintéressant, parce que je ne considère pas que le sexe ne doit pas être traité, mais c'est juste qu'il est traité vraiment abondamment. Donc il y a aussi, bon, toujours un peu un risque des... Ça, parfois, on n'est pas parfait à ce niveau-là, mais il y a quand même aussi beaucoup d'organismes qui font des études, mais qui ne sont pas des études scientifiques. Et on est toujours un peu mal pris, parce qu'on a quand même l'impression qu'ils ont essayé de le faire bien, mais maintenant c'est clair qu'on n'a pas la validation d'une vraie revue. Et il y a par exemple de plus en plus, je trouve, des sites qui font eux-mêmes des recherches sur la base, par exemple, de leurs utilisateurs. Donc, par exemple, sur les questions du couple et de la sexualité, il y a des sites de rencontres qui font des recherches qui montrent, par exemple, que tel type de profils sont préférés. Alors, sans doute que ça a été fait quand même avec un certain sérieux, mais certainement pas le même sérieux qu'une vraie recherche scientifique. Et donc, ça pose un peu des questions sur... Parce que les personnes, bon, elles voient études et sont déjà satisfaites. Hein, donc... Il y a encore toute l'éducation, qu'est-ce que c'est une véritable étude avec le comité de lecture, etc. Enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment amené à éduquer un public qui connaît forcément rien à ça. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de... Ce qui est difficile, c'est qu'on a donc nos actus qui sont comme ça toutes courtes avec nos liens. Et puis après, en fait, il y a plein de choses qu'on a envie de dire sur la globalité de notre service. Et ça, ça se trouve dans nos grandes foires aux questions, mais... Bon, qui est sans doute pas aussi lu, quoi. Et donc, ça, c'est un peu dommage, parfois, mais... Voilà, mais on est un peu prisonnier du cadre qu'on s'est fixé, d'une certaine façon, puisque les réseaux sociaux sont très contraignants du principe du statut qu'on poste, qui arrive dans une timeline, et puis après, qui disparaît, etc. Ça empêche d'être sûr que quelque chose est lu, par exemple... Si on veut vraiment faire une annonce importante, c'est très difficile à faire. Alors que la newsletter nous permet de faire ça. Et ce qui est difficile aussi, c'est que les réseaux se changent tout le temps. Donc à chaque fois que Facebook change sa politique ou quoi, notre page ressemble plus à rien. Et tout à coup, il faut tout refaire. Donc ça c'est stressant. Et il y a une semaine, notre page Facebook ne comprenait plus rien de nos actualités, seulement certains statuts qu'on avait postés directement via Facebook. Et donc il y avait plus rien, quoi, c'était vide, et j'ai eu quand même un moment d'inquiétude, et je me suis dit, comment est-ce que j'ai réussi à contacter Facebook, à leur faire prendre conscience que ma petite page, parce que finalement c'est quand même une petite page par rapport à d'autres, ma petite page a un problème et qu'il faut qu'ils m'aident. Je veux dire, on perd un peu la maîtrise de son contenu, mais voilà, c'est pour être plus lu, quoi. Et ça, je pense que la Suisse, c'est certain qu'on est clairement plus lu en étant sur ces réseaux que si on faisait un blog indépendant... où là on aurait sans doute eu de mal à décoller. On aurait peut-être une satisfaction plus grande de faire un travail de qualité, parce qu'on aurait pu tout à fait éditer notre contenu, mais où on se serait un peu auto-congratulé dans notre coin, et ça c'était pas du tout ce qu'on voulait faire. Donc voilà.
Ouais, mais voilà, on est arrivé un peu à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas abordées dont tu voudrais parler? Et puis aussi la question habituelle, mais est-ce qu'il y a... Quel est le futur de Psicopium, ou est-ce que tu as des projets personnels dont tu voudrais dire un mot?
Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées? Ben donc moi, je pourrais profiter du balado pour faire une annonce, déjà pour inviter les gens qui ne connaissent pas le site à le découvrir. Ça prend quelques minutes et ça peut parfois susciter un réel intérêt. Donc j'en suis moi-même convaincu, c'est pas seulement pour... Puisque je précise donc que je ne gagne rien avec tout ça. et aussi éventuellement susciter peut-être des vocations pour nous rejoindre. Parce que je pense qu'en plus on est de fous, plus on rit. Et que c'est vraiment une expérience enrichissante de travailler en équipe. Ça j'ai pas évoqué, mais on a vraiment un système de communication évidemment interne. Qui est une sorte de forum interne et qui est très animé, où on discute de plein de choses entre personnes qui finalement, même s'ils sont très différents, partagent un sacré point commun, puisqu'elles passent du temps à faire cette tâche extrêmement spécifique qu'est Psicopium. Donc ça, je voudrais, voilà, s'il y a des vocations, qu'elles n'hésitent pas à se faire connaître. Alors le futur de Psicopium, Ben, j'espère que ça va continuer, puisque je pense que le rythme des articles de vulgarisation et de la publication de ces articles sans doute ne va pas décroître. Au contraire, je dirais même que, en fait, étonnamment, notre service peut même pousser à augmenter la publication de ces articles, puisque, l'air de rien, on est un pourvoyeur de trafic pour tous ces sites. Il y a certains sites qui m'ont dit, quand je vois combien viennent de chez vous, etc., nous, j'ai un petit site dans mon coin, et tout à coup, maintenant, il y a plein de gens qui viennent. Et donc, c'est vrai que ça suscite, comme ces articles sont lus, ben, ça peut donner envie aux sites qui publiaient genre un article par mois en psycho, se rendant compte que finalement, cet article est peut-être parfois même plus lu que les articles bio qu'ils ont écrits à côté, mais qui ne sont pas relayés par une source externe, etc., d'en faire plus, et donc de vulgariser plus de choses. Donc ça va certainement pas décroître, le matériel va pas décroître, donc on va certainement continuer à avoir du travail, et ce sera sans doute toujours normalement des nouvelles choses. Bon, la recherche se construit petit à petit, et on remet sans cesse sans doute ce qu'on sait déjà, mais voilà, mais disons que ça, c'est, il y aura toujours du travail, et alors on essaye de... En fait, j'ai personnellement beaucoup d'idées de développement, hein, c'est-à-dire que c'est clair qu'on pourrait faire, on pourrait nous-mêmes faire de la vulgarisation, on pourrait faire de la traduction d'articles, on en fait déjà un tout petit peu, on a commencé, on pourrait faire du relais de vidéos, on travaille un peu sur les médias, parce qu'on pense qu'il y a des vidéos qui, même si elles n'ont pas le label validé par un comité, est-ce qu'une vidéo ne passe pas par les mêmes filtres, disons qu'il y a des choses qui sont vraiment, qui valent la peine d'être vues. Donc c'est vrai qu'on essaie d'élargir un peu nos activités globalement, et je pense qu'il y a aussi un travail qui pourrait être intéressant, qui serait d'explorer nos archives, en fait, c'est-à-dire d'essayer de faire quelque chose avec ce qu'on a déjà. Et donc, par exemple, je parlais d'Alzheimer, mais je pense que faire un bilan sur Alzheimer, presque sur une sorte de critique des médias, mais j'aimerais en regardant ce qu'on a déjà relayé depuis X temps, et en essayant de classer ça et de donner une sorte de comprendre ça mieux, si on veut, eh bien, ça, je pense que ça pourrait vraiment être pertinent. Et là, à ce moment-là, d'enrichir, de faire ce qu'on appelle de la curation par co-occurrence de contenu, si on veut, et de faire émerger des choses nouvelles par le fait de mettre ensemble des choses qui sont passées dans la presse à des moments très variables et qui, mises en parallèle, peuvent tout à coup... faire émerger de nouvelles compréhensions. Voilà, mais donc il y a plein d'idées, et d'ailleurs les personnes qui ont des idées et qui veulent rejoindre le projet pour implémenter quelque chose de nouveau, mais qui vise toujours à diffuser de la psychologie scientifique à l'âge public, sont aussi bienvenues pour nous rejoindre.
Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci beaucoup.